Bonjour à tous, bonjour Anne-Cécile.
Bonjour Arnaud.
Alors aujourd'hui nous irons au Bénin avec un très beau reportage de Lydia Banitsak où il sera question des femmes et de la mangrove.
Oui, comment protéger la mangrove des zones humides du sud de Bénin, du Bénin où les femmes produisent du sel en utilisant le bois de la mangrove pour l'évaporation de l'eau.
Notre souci c'est de préserver la majeure partie de la mangrove. Quoi. Parce que sincèrement, ils ont toujours besoin de ça pour mener certaines activités. Construire une maison ou faire des filtres pour le sel, on ne va pas les priver de ça. Mais ce que je dis aux femmes, je vous interdis de couper la mangrove pour faire le sel, mais à la place, je vous apprends une autre technique et qui n'a pas besoin d'utiliser le bois.
La mangrove qui s'est développée dans les zones humides du sud du Bénin et qui abrite une biodiversité exceptionnelle est menacée de disparition à cause de l'exploitation du sel. Avec le soutien du Fonds français pour l'environnement mondial, les productrices de sel ont accepté de changer de technique. Elles utilisent désormais la chaleur solaire pour évaporer l'eau de la saumure. Résultat, c'est meilleur pour la santé que la fumée du bois, c'est plus rentable et ça préserve l'environnement. Les femmes de la mangrove, un reportage à découvrir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
Il faut qu'on se rende compte d'une chose, c'est qu'on n'est rien. Et que si on disparaît au XXIe siècle, mais l'univers s'en moque totalement.
Mais tout de suite, et c'est le jeu de cette première partie, on décortique l'actualité environnementale avec vous. Bettina Laville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice et la présidente d'honneur du comité 21. Vous avez été la conseillère de Pierre Bérégovoy lorsqu'il était Premier ministre, du président François Mitterrand, de Lionel Jospin. Vous avez été chargée par l'actuel gouvernement en 2008 d'une mission sur le Grenelle de l'environnement. Et plus actuellement, vous faites partie actuellement de la commission des experts du Grand Emprunt. Alors, Bettina Laville, l'actualité du jour, c'est le prix Nobel de la paix attribuée à Barack Obama pour ses efforts extraordinaires en faveur du renforcement de la diplomatie et de la coopération internationale entre les peuples. Quelle est votre réaction ?
Écoutez, c'est une réaction un peu à chaud. C'est vrai que ce n'est pas son nom qui courait. Mais ce que je crois que c'est que c'est un poids de plus sur ses épaules. C'est-à-dire que c'est un homme qui est arrivé président des États-Unis avec un espoir extraordinaire venant du peuple américain et venant également du monde entier. On voit qu'il s'essouffle, pour des raisons, à mon avis, injustes d'ailleurs. Et finalement, les Suédois, le comité du prix Nobel, lui donne un petit coup de pouce en disant « continuez ». Alors ça, c'est un signe d'espoir pour la paix très important. Il faut dire que c'est vrai, des efforts extraordinaires. Quand vous regardez l'Irak, l'Iran, Palestine, Israël, etc. Alors simplement, ces efforts n'ont pas encore abouti. Et le mot « effort » est très bien choisi, je trouve, dans le communiqué. Mais c'est un poids de plus parce que on lui fait monter encore un barreau de l'échelle dans l'espoir que le monde a en lui. Maintenant, il faut qu'il ait le prix de la réalité, c'est-à-dire réaliser. C'est aussi un signe que les Nobel sont particulièrement conscients des dangers que court le monde et en particulier au niveau de l'Iran. Je crois que c'est aussi comme cela qu'il faut l'interpréter.
Merci Bettina Laville pour cette réaction à chaud. Maintenant, on va parler de l'actualité environnementale et elle est dominée aujourd'hui par l'ouverture ce matin à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 7e Forum mondial sur le développement durable consacré au changement climatique. Arnaud.
Oui, l'Afrique qui n'émet que 4% de gaz à effet de serre va être très impactée par le réchauffement climatique et plusieurs chefs d'État africains et de nombreuses personnalités se sont donné rendez-vous de vendredi à dimanche au forum de Ouagadougou pour affirmer leur position avant le sommet climat des Nations Unies à Copenhague en décembre. Et justement, nous avons pu joindre ce matin le ministre de l'Environnement du Burkina Faso, Salifou Savadogou. Monsieur le ministre, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, qu'attendez-vous de cette manifestation là qui commence à Ouagadougou ?
Pour nous, en organisant cette rencontre de concert avec les institutions internationales, nous entendons partager la réflexion autour d'une problématique qui est d'actualité, savoir le phénomène des changements climatiques en rapport avec le développement durable. Alors pour nous, c'est l'appropriation sur la thématique, mais aussi c'est un temps fort pour nous de pouvoir d'une part interpeller toutes les consciences sur les phénomènes liés au changement climatique, et naturellement émettre, formuler des propositions dans le sens donc d'une meilleure prédisposition pour l'Afrique à gérer ce phénomène-là.
Quelle est la position du Burkina Faso aujourd'hui dans la négociation?
Ben, le Burkina Faso, nous sommes dans la position africaine, à savoir que le cadre juridique qui est la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre la désertification devrait être maintenu, voire amélioré. Mais nous estimons également que les pays dits pollueurs se doivent de prendre des engagements chiffrés. Et de notre part, il nous revient donc que les engagements devraient se chiffrer dans l'ordre de 40% en termes de réduction des gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. Mais nous estimons également que sur la question du financement, il nous faut des financements innovants, additionnels, et prévisibles et sans conditionnalité pour nous permettre de conduire des programmes et des projets d'adaptation et d'atténuation sur les phénomènes liés au changement climatique.
Bettina Laville, vous comprenez cette position du Burkina Faso?
Oui, je la comprends. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que nous avions ce discours à la conférence de Rio en 1992. Vous savez, il ne faut pas oublier que la conférence de Rio s'appelait la conférence de l'environnement et du développement. Ensuite, de Rio à Kyoto et encore plus à Johannesburg, finalement, l'environnement et le développement ont été traités dans des enceintes un peu séparées, avec pour le développement, avec le sommet du millénaire, des crédits qui malheureusement ne sont pas à la hauteur des enjeux, et la crise évidemment a fait qu'on a aujourd'hui beaucoup de retard, et l'environnement a été donné un petit peu à l'espoir du secteur privé à cause en particulier des mécanismes des permis. Moi j'ai soutenu, quand j'étais à Matignon, j'ai soutenu le mécanisme des permis parce que je pense que c'était un pas en avant et que à ce moment-là, pour que le concert des acteurs économiques, en particulier des entreprises, rentre, il y avait du scepticisme encore à ce moment-là, rentre dans la négociation, il fallait faire un pas dans ce domaine. Mais il ne fallait pas non plus diminuer les crédits privés et les crédits publics ne sont pas à la hauteur aujourd'hui. Et je pense qu'il y a eu une faute importante de commise dans la négociation il y a à peu près 10 mois, c'est quand, au plus fort de la crise financière, les pays riches, on dit aux pays pauvres, mais attendez, on est en pleine crise, on ne va pas en plus vous promettre des crédits importants. Alors ce que dit le ministre est intéressant, il a raison de demander des crédits additionnels. En revanche, ça je ne peux pas imaginer qu'on donne des crédits, que la communauté internationale donne des crédits sans engagement des pays. Ça, c'est pas possible. Pour l'instant, dans le protocole de Kyoto, les pays pauvres ne sont soumis à aucune obligation. Mais aujourd'hui, la négociation est telle que ce qu'on appelait le groupe de 77 est fait de pays qui ont encore des difficultés, bien entendu, mais qui deviennent plus riches, et les pays émergents et les pays très pauvres.
Il faut absolument
qu'il y ait également des engagements. Et donc, moi, je suis pour certaines conditionnalités, à condition que ces conditionnalités soient éthiques d'une part et justes d'autre part.
Bettina Laville, on le disait au début de cette émission, vous avez conseillé au plus haut niveau de l'État, notamment sur ces questions d'environnement. À partir de quand peut-on dire qu'en France, les questions environnementales se sont vraiment imposées à l'État français?
Alors, à l'État français, ça a quand même été une dure bataille. Et l'État français a toujours réagi, finalement, aux crises. Je pense qu'il y a eu trois tournants. Il y a eu la création du ministère de l'Environnement, sous Georges Pompidou, Poujade, etc., le Premier ministre. Il y a eu quand même l'époque Lalonde. Moi, j'ai eu l'honneur d'être son directeur de cabinet. Je continue de dire qu'avec le plan national pour l'environnement, sous Michel Rocard, ça a été véritablement un tournant très important.
Brice Lalonde, qui est aujourd'hui d'ailleurs l'ambassadeur
aujourd'hui
de la France pour les négociations
pour
sur le climat.
Voilà, pour les changements climatiques. Et c'est juste. Et d'autre part, il y a eu les années récentes qui sont le produit des événements qui se sont passés au début des années 2000, c'est-à-dire que finalement, les Français, le monde entier, c'est comme Saint-Thomas, ils croient quand ils voient. Et là, il y a eu Katrina, la canicule, les tempêtes. Aujourd'hui, on voit les phénomènes.
Et le quatrième rapport du GIEC qui a été vraiment...
Et le quatrième rapport du GIEC. Et d'ailleurs, il faut quand même dire aussi que le rapport du GIEC prend très souvent des valeurs moyennes. Et donc, ça peut être pire. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, si vous voulez, je trouve extrêmement importante, il ne faut pas nier, signé, c'est le pacte de Nicolas Hulot en France, où tous les candidats ont signé, il y a un candidat qui est élu, et il l'applique. Et si c'était les autres candidats, je pense que c'était appliqué également. Mais là, c'est ce gouvernement, et c'est vrai qu'il se passe des choses.
Zoom sur l'actualité d'un continent et aujourd'hui direction le Proche et le Moyen-Orient.
Et c'est aujourd'hui avec vous, Franck Veyrabeau. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez des histoires de requins pour nous.
Absolument. D'abord, l'animal, bien sûr, et en particulier celui de la mer Rouge, qui est désormais en grand danger de disparition. Et puis, une autre espèce de requin humaine, celle-là, des requins que l'on retrouve plus précisément dans le milieu libanais de l'immobilier, avec la flambée des prix qui menace, selon les écologistes libanais, ce qui reste des vieux quartiers de Beyrouth.
Commençons donc par les animaux. C'est une fois de plus la surpêche qui est en cours.
Et les spécialistes se sont réunis récemment en Arabie Saoudite, des spécialistes qui préconisent non seulement l'interdiction de la pêche, mais également la commercialisation. Dans un article récent, Courrier International nous apprend que la viande de requin est très prisée dans ce royaume, pas tellement par les autochtones, les Saoudiens effectivement ne goûtent guère cette viande de requin. En revanche, c'est un mets de choix pour de nombreux travailleurs immigrés, c'est en particulier le cas des Asiatiques qui consomment pratiquement tout dans ce prédateur des mers. Le kilo de nageoire se négocie ainsi à près de 20 euros. Plusieurs dizaines d'espèces existent actuellement en mer Rouge, mais la surpêche menace aujourd'hui leur existence. Une récente conférence régionale organisée à Djeddah a donc souhaité que la pêche du requin soit interdite, mais au vu de l'enjeu économique que représente cette pêche, il y a peu de chances que les autorités décrètent une telle interdiction. Les chercheurs soulignent pourtant que la protection d'une espèce située à la fin de la chaîne alimentaire est une nécessité si l'on veut préserver l'équilibre marin.
Bettina Laville, vous voudriez réagir ?
Non, je me demande toujours, en entendant cela, qui est prédateur. Très souvent, dans tout le vocabulaire de la nature, ce sont les animaux qui sont prédateurs. Et aujourd'hui, le grand changement, c'est que la nature humaine est également prédatrice et fait des ravages sur l'ensemble de la nature. Et je pense que là, il y a un retournement extrêmement important qui a des conséquences, évidemment, comme vous venez de le dire, politiques, qui a des conséquences sur l'ensemble de l'équilibre de l'écosystème et qui a des conséquences philosophiques profondes. Ça, j'en suis absolument persuadée. Obama, pour parler de lui, avait prononcé un mot qui était un mot animal également au moment de la crise financière, il a dit la crise, c'est la faute de la rapacité du monde. Et là, je trouve que, voilà, prédation, rapacité.
Alors, à propos de prédation, d'autres requins menacent quant à eux le patrimoine architectural de la capitale libanaise.
Et pour rebondir sur ce que vient de dire votre invité, bien ces requins, eux, sont bien humains. Ce sont des promoteurs immobiliers qui, depuis les années 90, offrent aux propriétaires de vieilles maisons de racheter leur terrain et leur vieille demeure pour y édifier, vous vous en doutez, des immeubles, principalement de bureaux. Le parti écologiste libanais, qui en est à ses premières années d'existence, tentent de faire entendre la voix des protecteurs de cet héritage historique, mais la loi, il faut bien le dire, ne leur est guère favorable. Il faut savoir que le seul texte en vigueur sur ce dossier date de 1933 et il prévoit la protection des édifices construits avant 1700. Le gouvernement a certes le choix d'ajouter des bâtiments plus récents, mais en 1999, par exemple, seuls 220 bâtiments figuraient sur cette liste. Il y a deux ans, le ministre de la Culture libanais a tenté de faire voter une loi pour aider financièrement les propriétaires de maisons anciennes à les entretenir ou à les rénover, mais cette loi n'a jamais été ratifiée par le Parlement. Les promoteurs, de leur côté, affirment que le développement immobilier contribue à la croissance économique du pays, mais comme le souligne un défenseur de l'environnement un peu désabusé, il faut se demander si les touristes viendront à Beyrouth pour voir des tours en béton et des gratte-ciel.
Merci Franck Veyrabo.
C'est pas du vent @rfi.fr.
Alors, Bettina Laville, vous avez été la coordinatrice pour la France au sommet de la Terre à Rio en 92. Alors, qu'est-ce qui a fait que cette conférence a été le point de départ très important? Ça a été vraiment, historiquement, on voit, c'est le départ des conventions, c'est le monde entier, finalement, se pose toutes ces questions d'environnement. Comment, qu'est-ce qui a créé ce phénomène à ce moment-là?
Alors, en fait, vous savez, il y a eu une grande conférence avant, c'est la conférence de Stockholm en 1972, et Rio, ça a été 20 ans après. 72-92, évidemment, beaucoup de choses s'étaient passées. Et entre-temps, il s'était passé quelque chose qui avait fait beaucoup de bruit. C'est le rapport de Mme Brundtland, qui était à l'époque ministre de l'Environnement de Suède et qui, après, est devenue Premier ministre et qui a forgé le concept de développement durable. C'est-à-dire, elle a lancé une alerte sur le fait qu'on ne pouvait pas continuer le développement comme il était lancé sur la planète et qu'il fallait que ce développement soit sustainable, durable, c'est-à-dire en fait qu'on n'ait comme condition d'un bon développement que les ressources puissent être renouvelées, c'est-à-dire pas trop exploitées pour leur garder leur capacité de renouvellement. Donc il y a eu ce fait. Alors après aussi, c'est vrai qu'il y avait eu des tragédies écologiques, on se souvient tous de Bhopal, on se souvient de Tchernobyl, etc. Il y avait une conscience des risques beaucoup plus importante.
La forêt brésilienne, amazonienne était en feu.
Exactement. Donc si vous voulez, il y avait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y avait des signes tangibles et donc une conscience beaucoup plus importante. Il faut quand même voir qu'il y avait à Rio également des sceptiques, qu'il y avait certes des délégations d'entreprises, mais que les grands responsables économiques s'interrogeaient encore. Il y a eu aussi, moi je voudrais leur rendre hommage, des négociateurs, en particulier des négociateurs français. Je pense à Jean Ripert, par exemple, qui avait été commissaire au plan et qui était notre négociateur pour la Convention climatique, on lui doit la Convention climatique. Il y avait Serge Antoine, qui a été notre premier président du comité 21. Il y avait beaucoup d'autres gens. Et en fait, finalement, à Rio, il y a eu trois grands discours. Je dois dire, excusez-moi, le discours de François Mitterrand, le discours d'Abdou Diouf pour les pays du Sud, qui était un discours remarquable, et un discours terrible, c'est le discours de Bosch père, hein, qui a dit... n'importe quel problème de la planète n'empêchera pas le fait que les États-Unis veulent garder leur richesse et leur mode de vie. Ça a été dit, on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Alors finalement, si Barack Obama a le prix Nobel de la paix, bravo, parce qu'au moins il a un autre discours.
Alors on est à quelques semaines maintenant, hein, on peut à peine dire quelques mois, oui encore un peu, quelques mois de Copenhague. Voilà, c'est l'aboutissement du processus de Rio. Quels sont vos pronostics rapidement?
C'est très difficile à dire. Moi, je ne fais pas partie des gens très, très optimistes. Alors, il y a quand même des causes d'optimisme.
Rapidement, parce qu'on arrive à la fin, je suis désolée.
Non, si vous voulez, c'est que les chefs d'État sont très mobilisés, beaucoup plus mobilisés que les autres fois. Voilà. Le danger se rapproche, il y a une certaine panique qui vient. Là où je ne suis pas très optimiste, c'est que le groupe des 77, qui évidemment aujourd'hui sont plus de 110 pays, est formé en particulier des pays émergents, qui ont véritablement des exigences importantes. Et là, je pense que la négociation va quand même être très difficile.
Merci beaucoup, Bettina Laville. On se retrouve juste après un bref rappel de l'actualité pour un reportage qui va nous emmener dans la mangrove au Bénin. À tout de suite.